D'habitude, quand on pense à la justice, l'image qui nous vient à l'esprit est assez universelle.
Ouais, on imagine tous la fameuse dame impassible, là.
Exactement. La dame aux yeux bandés qui tient une balance parfaitement équilibrée dans sa main.
C'est très propre comme image.
Très propre, très clinique. C'est presque mathématique en fait. Un délit est commis, on ajoute un poids d'un côté.
Et hop, la balance s'ajuste pour compenser.
Voilà. Mais imagine un instant qu'on prenne cette belle allégorie bien ordonnée et qu'on la jette par la fenêtre.
Ah, on casse tout.
On casse tout. Et on remplace cette balance par un vieux registre comptable plein de poussière.
D'accord.
Et on remplace cette image clinique par un rituel viscéral. Un truc très ancien, avec des autels, des sacrifices, du sang.
Oula. C'est une substitution d'image assez brutale, du coup. Ça détruit complètement notre conception moderne et aseptisée des tribunaux.
Totalement.
On passe d'un système légal froid et neutre à quelque chose de beaucoup plus organique et superchargé d'histoire.
Et c'est précisément ce changement radical de décor qui motive notre exploration d'aujourd'hui.
Une plongée dans des documents vraiment fascinants.
Absolument. On se penche sur les notes de cours du docteur Craig Kenner.
Sur les chapitres 3 à 5 de l'Épître aux Romains, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et notre mission aujourd'hui est claire. Il s'agit de distiller des concepts anciens et extrêmement denses.
Genre la grâce, la justice divine, ce genre de choses.
Ouais, et les rituels de sang. Tout ça pour en extraire des pépites de sagesse sur l'égalité fondamentale des humains et aussi sur notre résilience face à la souffrance.
Et pour ceux qui nous écoutent et qui se disent la théologie antique, c'est vraiment pas pour moi, il faut revoir cette idée.
Ah oui, c'est clair. Ces sources, c'est pas juste des vieux textes poussiéreux. Elles documentent une redéfinition totalement révolutionnaire de la justice.
On va parler d'anciens termes de comptabilité.
On va même examiner le couvercle en or de l'Arche d'Alliance. Et on va surtout comprendre pourquoi l'idée de mourir pour ses propres ennemis a littéralement provoqué un séisme dans le monde antique.
C'est un programme hyper ambitieux. Et l'enjeu est de taille, parce qu'avant même de comprendre comment cette philosophie a nivelé les différences culturelles de l'époque,
Le grand fossé entre juifs et gentils, par exemple.
voilà, il faut impérativement décortiquer la mécanique de cette fameuse transaction divine. Et pour ça, faut d'abord effacer notre définition moderne du mot grâce.
Ah bon, c'est pas la même chose.
Pas du tout. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la grâce, c'était pas un concept éthéré ou un petit sentiment de bienveillance. C'était le pilier de la société.
Pilier, comment ça?
C'était un système de patronage hyper concret. En gros, un don massif était offert par un bienfaiteur puissant à un client qui n'avait rien.
D'accord.
Et ce don appelait une réponse sociale stricte. Le client devait honorer ce bienfaiteur, vanter ses mérites publiquement, lui vouer une loyauté absolue. C'était une économie de la dette morale.
Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il y a une concentration énorme de termes dans ces notes qui portent un bagage historique très lourd.
Ouais, il y a du vocabulaire très spécifique.
Par exemple, la source souligne l'utilisation du mot rédemption. Aujourd'hui, on entend ça uniquement dans un contexte religieux.
Alors qu'à l'époque gréco-romaine, c'est pas un mot qu'on chuchote dans un temple, ça.
Ben non, c'est un terme de marché. Ça évoque directement l'achat d'un être humain pour le libérer de l'esclavage. Le paiement physique d'une rançon, quoi.
Et pour les lecteurs d'origine juive de l'époque, ça fait immédiatement écho à la libération de l'exode d'Égypte.
Exactement. Et au milieu de tout ce vocabulaire de marché, il y a un mot grec très particulier qui apparaît, le hilasterion.
Ah, un terme fondamental. Le hilasterion, ça a suscité d'immenses débats. Mais des figures historiques majeures, d'Origène à Martin Luther et même William Tyndale.
Ils étaient tous d'accord?
Ouais. Ils l'ont tous identifié comme faisant référence au propitiatoire.
C'est-à-dire?
Pour visualiser, c'est le couvercle massif en or pur qui scellait l'Arche d'Alliance, celle qui était cachée dans le Saint des Saints du Temple.
Ok, je vois l'image.
C'était le lieu exact, physique, où le grand prêtre versait le sang du sacrifice une fois par an.
Lors de Yom Kippour, le jour des expiations.
C'est ça. Et la source précise une chose cruciale. Bien que la crucifixion romaine était atrocement sanglante, le mot « sang » ici n'est pas juste là pour décrire une hémorragie.
C'est un symbole.
C'est un code, ouais. Ça décrit la signification de cette mort. Le hilasterion, ce couvercle en or, ça devient le nouveau lieu de rencontre cosmique.
Là où un peuple pardonné peut interagir avec le divin sans être pulvérisé par sa sainteté, en fait.
Exactement.
Je dois avouer que, pour nous, aujourd'hui, l'idée d'apaiser le divin avec des rituels de sang, ça ressemble un peu à un film d'horreur antique. C'est dur à avaler.
C'est clair que c'est très éloigné de notre sensibilité.
Mais les notes amènent une idée qui m'a complètement bluffé et qui adoucit cette brutalité. C'est le concept de parésis.
Ah, le fameux report!
Voilà. En étudiant la source, j'ai compris que ça veut dire que Dieu a temporairement reporté, ou même négligé, la punition des péchés passés.
Une sorte de sursis cosmique.
C'est ça. Si je devais faire une analogie moderne, c'est comme si l'humanité tout entière avait accumulé une dette astronomique sur une immense carte de crédit cosmique.
Et ça pendant des millénaires.
Ouais. Et au lieu de bloquer la carte, de déclarer la faillite immédiate et d'envoyer les huissiers pour saisir nos vies...
Dieu a juste mis la facture dans un tiroir.
Exactement. Il a temporairement ignoré la dette. Pourquoi ? Bah parce qu'il préparait une solution définitive à la croix pour satisfaire deux choses complètement contradictoires.
Lesquelles ?
Sa justice implacable, en payant enfin cette dette, et sa fidélité inébranlable à l'Alliance, en pardonnant à l'humanité au lieu de la rayer de la carte.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cela recadre la très mal-aimée colère de Dieu.
C'est vrai qu'aujourd'hui, un Dieu en colère, ça passe mal.
La théologie moderne est hyper mal à l'aise avec ça. On préfère l'image d'un grand-père céleste super indulgent.
Qui laisse tout passer.
Voilà. Mais le docteur Kenner souligne qu'il faut se replacer dans le contexte. Dans les textes anciens, l'ordre du monde dépendait de la justice.
Donc la colère divine, c'est pas un caprice ?
Jamais. C'est pas une crise de nerfs ou une perte de contrôle. C'est une réaction mécanique, inévitable, ancrée dans l'idée de justice pure face au mal.
Et la source cite un chercheur là-dessus, non ?
Jean T. Kim, oui. Il montre que l'idée d'un noble martyr dont la mort apaise la colère divine, c'était pas nouveau. C'était dans l'air du temps.
Donc la société comprenait ce langage ?
Parfaitement. Mais si on suit cette logique jusqu'au bout, on se retrouve avec une dette cosmique entièrement réglée par le divin.
Sans aucune contribution humaine.
Aucune.
Et ça, si l'humanité n'a rien payé, ça détruit instantanément toute possibilité de se vanter. Le compteur des mérites personnels retombe à zéro.
Personne ne peut dire « j'ai payé ma part ».
C'est ça. C'est un nivellement par le bas magnifique.
Mais comment l'auteur de cette épître arrive-t-il à prouver ça à un public du 1er siècle, un public super enraciné dans l'effort personnel et la tradition ?
La source explique qu'il le fait en réinterprétant leur plus grande fierté historique, le patriarche Abraham.
Ah ! S'attaquer à Abraham, c'est osé. C'est le test ultime. Si ça marche pas avec Abraham, tout s'effondre. Et l'argument déploie un coup de maître. Il s'appuie d'abord sur le schéma.
La déclaration de foi quotidienne du judaïsme. Celle qui dit « Dieu est un ».
Voilà. L'auteur en tire une logique massive. S'il n'y a qu'un seul Dieu créateur, il ne peut logiquement pas être le micro-dieu d'une seule tribu.
Il doit être le Dieu de toute l'humanité.
Et s'il est le Dieu de tous, il doit accepter les juifs et les gentils sur des bases strictement identiques. Sinon, il n'est plus impartial.
Sur le papier, la logique est fluide. Et pour verrouiller cette théorie sur la personne d'Abraham, le texte utilise le mot grec « logizomai ».
Un terme de comptabilité.
Encore de la finance, oui. Ça signifie « calculer » ou plus précisément « porter au crédit d'un compte ».
Comme un virement bancaire.
C'est ça. La Genèse, au chapitre 15, affirme que Dieu a pris la foi d'Abraham et l'a portée à son crédit comme si c'était de la justice parfaite.
Il acquitte les coupables en écrivant le mot juste sur leur livre de compte, même si les colonnes sont vides.
Et les notes de cour insistent vachement sur un point. C'est le timing de cette écriture comptable qui est le clou du spectacle.
Ah oui, la chronologie, c'est l'arme fatale ici. La justification d'Abraham par la simple foi s'est produite au moins 13 ans avant la circoncision.
13 ans avant. Donc bien avant que le rite ne soit établi au chapitre 17.
Exactement. Des textes rabbiniques parlent de la circoncision comme d'un sceau. Et dans un monde de symboles, le sceau authentifie le document, mais il ne le crée pas.
C'est un signe extérieur qui vient valider une réalité déjà existante.
La source prend l'analogie de l'arc-en-ciel avec Noé. L'arc-en-ciel n'était pas l'alliance, c'était le rappel visible. La justification d'Abraham était déjà actée 13 ans plus tôt.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant ce passage des notes, j'ai remarqué un truc qui cloche dans le timing.
Ah oui, quoi donc ?
Ben, on nous dit que la foi d'Abraham, dans Genèse 15, c'est le standard d'or. Une foi tellement incroyable qu'elle est portée à son crédit.
C'est ce que dit le texte, oui.
Très bien. Mais si on tourne juste une page, au chapitre 16, c'est la panique totale.
L'épisode avec Agar.
Exactement. Dieu lui a promis un héritier et pourtant Abraham doute tellement face au temps qui passe qu'il accepte d'utiliser la servante, Agar, comme mère porteuse.
Pour forcer le destin, ouais.
Ça ressemble pas du tout à la foi inébranlable et parfaite qu'on vient de nous vendre. Si sa justification repose sur sa confiance totale, pourquoi cet effondrement paranoïaque immédiat?
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble de la condition humaine, cette imperfection choquante n'est pas une faille dans l'argument.
Ah non?
C'est quand même un gros dérapage.
Mais c'est en réalité le cœur battant du message. Les sources mettent en évidence que la foi d'Abraham au tout début, dans Genèse 15, elle était très rudimentaire.
Donc, réelle mais fragile.
Très fragile. Elle n'était certainement pas achevée. Cette foi a dû entrer dans une longue incubation. Elle a dû grandir, faire des erreurs colossales et mûrir pendant des décennies.
Jusqu'au fameux test du sacrifice d'Isaac dans Genèse 22.
Voilà, des années plus tard. À ce stade seulement, il avait vraiment assimilé la nature fidèle du divin. Donc c'est pour cette humanité défaillante que les rabbins ultérieurs ont considéré Abraham comme le converti modèle.
Exactement. Son parcours prouve que la foi qui sauve, celle qui est portée au crédit, c'est pas synonyme de perfection instantanée.
C'est rassurant au fond. C'est une trajectoire parsemée d'erreurs, mais qui refuse d'abandonner.
Tout à fait.
Et si on est honnête, cette trajectoire, elle s'est pas faite dans le confort. Abraham n'a rien payé pour son salut, mais il a payé un lourd tribut émotionnel.
Oh que oui. L'attente, le doute.
Cette croissance organique de sa foi s'est forgée à coups de marteau dans l'adversité et face à ce que le texte biblique appelle la mort du ventre de Sarah. Et cette réflexion sur le temps et la douleur, ça nous offre un pont naturel vers un autre grand thème de nos sources.
La souffrance humaine.
Voilà. On ne peut pas parler de l'épître aux Romains sans aborder sa vision de la douleur.
Le chapitre 5 introduit d'ailleurs une mécanique très précise. Ce que les rhéteurs antiques appelaient une saurite.
Une saurite ?
C'est une chaîne d'arguments où chaque maillon engendre inévitablement le suivant. Le texte affirme que l'affliction, la pression, la souffrance produit la persévérance.
Et cette persévérance produit quoi ?
Un caractère éprouvé. Le mot grec utilisé ici, c'est dokimē. C'est un terme qui désignait les métaux testés par le feu pour prouver leur authenticité.
Donc on est purifié par les flammes.
C'est ça. Et c'est ce caractère éprouvé qui, au bout de la chaîne, engendre l'espérance.
J'aime beaucoup la physique de cette chaîne rhétorique. Pour utiliser une image très contemporaine, c'est l'exact équivalent d'un programme de musculation.
De la musculation spirituelle.
Exactement. On ne peut tout simplement pas obtenir le muscle robuste, ce fameux dokim, si on refuse de soulever des poids qui créent de la résistance.
La gravité des haltères, c'est l'affliction.
C'est ça. Et c'est uniquement ce muscle qui a été déchiré et reconstruit par l'effort qui possède la densité suffisante pour porter un poids aussi monumental que l'espérance face à la mort.
Sinon, l'espérance s'effondre.
Bah oui, une espérance sans musculature, ça lâche à la première mauvaise nouvelle.
C'est super bien vu. Et pour filer ta métaphore, aucun athlète de haut niveau ne conserve sa masse s'il arrête de s'entraîner.
C'est logique.
C'est ce que soulignent nos sources en mentionnant un consensus historique assez inattendu. Le monde théologique est souvent très divisé. Prends le grand débat historique entre les calvinistes et les arminiens, par exemple.
Ah oui, prédestination contre libre arbitre, c'est un classique.
Ils s'affrontent violemment là-dessus. Mais les notes indiquent que, malgré ces combats, ils s'accordent tous sur une évidence.
Laquelle ?
Que la foi, comme ton muscle, doit obligatoirement persévérer pour être authentique. C'est pas juste un abonnement à la salle de sport qu'on a pris il y a 15 ans et qu'on n'utilise plus.
J'adore l'image. Et il y a aussi cette idée un peu paradoxale dans les textes de se vanter de ses souffrances.
Ouais, on retrouve ça chez certains stoïciens ou dans la littérature apocalyptique juive.
On s'en vante pas par masochisme, hein, mais parce que cette espérance forgée par la douleur, c'est pas de l'optimisme béat, c'est une foi de résurrection.
Tout comme Abraham a cru au Créateur capable de donner la vie à ce qui est mort biologiquement.
L'endurance au cœur de la tragédie, c'est la preuve concrète que la foi du croyant a survécu à la fournaise. Mais bon, je vois l'idée. Mais soyons réalistes une seconde.
Sur quel point ?
Comment on peut sérieusement endurer cette musculation spirituelle sous la pression, traverser ces épreuves atroces, sans finir par craquer, sans devenir cynique ou s'effondrer ?
C'est la grande question. Sur le papier, ça marche.
Mais dans la vraie vie, l'affliction produit souvent du désespoir, pas de l'espérance. La seule réponse viable de ces textes, c'est une sorte de garantie interne, une expérience profondément intime de l'individu.
Une expérience qui vient renverser tout ce que la culture de l'époque glorifiait d'ailleurs. Le choc culturel décrit par les sources est total.
Parce que dans l'écosystème gréco-romain, mourir pour ses amis, c'était la valeur suprême.
Le sacrifice noble par excellence, mourir pour la patrie, pour sa famille. Mais l'argument central de l'apôtre ici, c'est de clamer que le Christ est mort pour des ennemis.
Des ennemis.
C'est-à-dire des pécheurs rebelles. Ce qui, selon la comptabilité cosmique dont on parlait au début, méritait amplement la colère divine. C'est la subversion absolue de la pyramide des valeurs antiques.
Mais pourquoi accepter un sacrifice aussi irrationnel?
Le texte soutient que cet acte démesuré a un but psychologique précis, permettre que le Saint-Esprit soit répandu abondamment dans les cœurs.
Comme un sceau interne, pour attester de cet amour insensé? D'ailleurs, à ce sujet, les notes du docteur Kinner incluent une anecdote personnelle très vulnérable.
Ah oui, l'histoire dans la nature.
Ouais. Il raconte que, lorsqu'il était un tout jeune converti, il luttait beaucoup avec ses doutes et sa culpabilité. Du coup, il est allé s'isoler dans la nature pour prier, pour demander à Dieu d'ouvrir ses oreilles.
Vu son bagage, il devait être terrifié.
Totalement terrifié. Il s'attendait honnêtement à recevoir un audit moral sévère, genre une liste de réprimandes, tu as fait ceci de mal, tu as échoué là.
Et au final?
Au lieu du tribunal attendu, il décrit avoir été submergé par une voix intérieure, d'une tendresse inouïe. Une voix qui lui disait juste « Mon enfant, je t'aime tellement. Regarde la croix, regarde les clous dans les mains, la lance, c'est à quel point je t'aime. »
C'est bouleversant.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Je trouve vertigineux d'observer le grand écart conceptuel opéré par ces textes antiques.
C'est-à-dire?
D'un côté, on nous force à regarder en face la réalité historique la plus brutale et macabre, une exécution romaine avec sa torture.
Oui, la violence publique absolue.
Et de l'autre, on relie cette horreur au murmure émotionnel le plus intime et le plus privé qui puisse exister à l'intérieur de la conscience humaine. C'est la fusion impossible entre la géopolitique publique et la sécurité psychologique.
Cela soulève une question importante quant à l'évolution de la psychologie religieuse elle-même.
C'est-à-dire?
Le passage d'un système à un autre.
Exactement. Cette assurance intérieure vient changer toutes les règles de l'engagement spirituel. Les sources expliquent qu'on passe d'un paradigme oppressant de loi des œuvres,
un système basé sur la peur de ne jamais en faire assez,
voilà, face à un Dieu lointain qui tient les comptes, et on passe à ce que l'auteur appelle la loi de la foi.
Un modèle basé sur une paix profonde, une réconciliation déjà actée. Ce n'est plus la peur du bâton qui motive l'action, c'est la sécurité d'être accepté qui permet d'endurer les tempêtes. L'issue finale est garantie.
Ce qui libère l'humain pour vivre pleinement le présent, même dans la douleur, si on fait un pas de recul pour contempler l'immensité de la vue d'ensemble qu'on a explorée aujourd'hui, c'est vraiment un voyage fascinant.
On est parti de très loin, hein ?
Oui, on a commencé dans la poussière des marchés aux esclaves antiques et dans l'ombre du propitiatoire en or où le sang scellait l'expiation.
On a vu les promesses incroyables faites à Abraham, dont la foi a mis des décennies à mûrir au gré de ses échecs.
Et on a fini par atterrir dans les méandres de la psychologie humaine, là où l'espoir se forge au milieu de la souffrance.
Le fil d'or qui relie toutes ces sources, c'est cette idée révolutionnaire. La véritable justice, elle ne s'achète pas avec un CV de bonnes œuvres.
Elle se reçoit les mains vides, comme un don, pour ensuite se cultiver avec acharnement dans la réalité de notre quotidien.
Et pour clore cette synthèse, il y a un détail exégétique subtil, mais aux implications colossales, concernant la promesse faite à Abraham.
Ah, tu veux parler de l'héritage éther?
Oui. Dans la Genèse, il lui a été promis d'hériter de la terre, un territoire géographique précis en Canaan, le terme hébreu « Eret ».
D'accord.
Mais à l'époque où l'épître aux Romains est rédigée, les sources nous apprennent que la compréhension de cette promesse avait complètement muté au sein du judaïsme.
Elle avait pris une autre dimension ?
Exactement. Hériter de la terre ne signifiait plus posséder un lopin de terre au Moyen-Orient. La vision s'était élargie pour signifier hériter du monde entier, du cosmos dans son ensemble.
L'échelle est passée du local à l'universel, en fait.
Voilà, symbolisant une transformation spirituelle totale.
Ce glissement sémantique nous laisse avec une pensée finale, une vraie provocation à méditer pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
Je t'écoute.
Si dans l'histoire, d'anciens rituels légaux, très physiques comme la circoncision ou des promesses territoriales limitées par des frontières, n'étaient en réalité que des ombres.
Des ébauches pointant vers une évolution intérieure.
Exactement. Quelles sont les choses matérielles aujourd'hui que nous idolâtrons ? Quels sont les symboles extérieurs de succès, de pouvoir ou de statut dans notre société moderne, que nous prenons à tort pour le but final absolu de notre existence?
C'est une sacrée remise en question.
Courons-nous frénétiquement après des réalités tangibles en pensant qu'elles sont l'accomplissement ultime, alors qu'elles ne sont peut-être que de simples tremplins vers une vérité humaine et spirituelle infiniment plus vaste?
Ça fait réfléchir sur ce qu'on cherche vraiment à bâtir.
Totalement. La justice divine, au fil de ces textes anciens, nous a prouvé qu'elle n'est pas cette entité stérile aux yeux bandés. C'est un récit bouillonnant de dettes annulées, de grâces scandaleuses et d'un amour capable de transformer la pire des afflictions en un espoir inébranlable.
Un récit qui change tout, ouais.
Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cette analyse approfondie des manuscrits, d'avoir bravé la complexité de l'histoire et d'avoir partagé cet espace de réflexion avec nous.
Merci de nous avoir suivis.
Continuez à questionner vos propres évidences, prenez soin de vous et surtout, gardez l'esprit grand ouvert. À très vite.